À Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Très belle journée à l'écoute des programmes de Présence. Il est 12h, c'est l'heure du Présence Midi depuis les studios de Lourdes. Merci d'être fidèle à Radio Présence. Je vous souhaite un très très bon appétit si vous êtes à table. Et c'est sous un beau soleil que j'ai le plaisir de partager cette heure de direct avec vous, au cours de laquelle, et bien dans quelques instants, nous écouterons Benjamin Boissy. Il est administrateur de l'ADR 65, l'Association pour le Développement et l'Emploi Agricole et Rural. Il sera donc au micro de la chronique verte de Benoît Guillard. Nous parlerons d'un livre intitulé « Pour une jeunesse sainte ». Ce sera le coup de cœur en librairie de Nicolas Dargegène cette semaine. Nous aurons évidemment les informations régionales et puis la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, elle reviendra sur la session provinciale de la pastorale de la santé qui s'est déroulée à Lourdes les 12 et 13 mars derniers. Pour cela, elle sera en compagnie de Sabine Lacombe. Et enfin, nous arpenterons les sentiers de nos belles Pyrénées en compagnie de Catherine Albrecht, qui mettra à l'honneur aujourd'hui Christian Laborde, qui a écrit donc sur notre beau massif. Voilà le sommaire de cette émission que je vous propose de débuter avec les titres des informations de ce vendredi 17 avril 2026.
En Ariège, l'État débloque 5 millions d'euros pour installer le nouveau commissariat de Foix dans l'ancienne Banque de France et permettra de regrouper les policiers actuellement dispersés sur 3 sites inadaptés, une avancée majeure pour la sécurité locale. À Cahors, le parking relais de la gare SNCF est de nouveau accessible dès aujourd'hui, après plusieurs mois de travaux. Les usagers de la gare retrouvent enfin une solution de stationnement. Dans le Lot-et-Garonne, Raymond Girardi, réélu président de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne face au jeune Émeric Dupuis, il annonce aussi que ce sera son dernier mandat à ce poste. Airbnb a reversé 1,5 million d'euros de taxes de séjour aux communes des Hautes-Pyrénées en 2025 pour soutenir le tourisme rural et l'attractivité locale. À Ax-les-Thermes, le pain jeté en trop grande quantité bloque le compostage du pont du Génie et menace l'efficacité du site de traitement des déchets organiques. Et enfin à Toulouse, le musée des Augustins franchit le cap des 100 000 visiteurs depuis sa réouverture en décembre dernier et confirme son succès auprès d'un public jeune et local. Le musée prévoit déjà ses prochaines nouveautés.
Merci à Génélie Tchieb de nous présenter ces informations au cours de toutes ces semaines. Elle vient de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, que nous retrouverons dans une petite demi-heure.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Et comme tous les vendredis, voici la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre dans les baronnies, plus exactement à Bagnos, ou tout près de Bagnos, en tout cas sur la commune de Bagnos. Ça faisait un petit moment que je voulais aller interviewer ce qui se vivait, ce qui se jouait sur la ferme de la Coume. Et puis en même temps, je suis interpellé aussi par les acteurs de l'ADR, je suis sensible. Et donc je voulais un petit peu faire une chronique autour de la situation de l'ADR, vous présenter aussi ce qu'est l'ADR, qu'est-ce qu'ils réalisent sur le territoire, et puis aussi leurs besoins actuels. Donc je suis avec Benjamin qui va peut-être tout simplement se présenter, et puis nous présenter l'ADR 65. Bonjour Benjamin.
Bonjour, donc moi c'est Benjamin Boissy, je suis installé comme paysan sur la ferme de la Coum depuis 2019. J'y suis depuis 2017, mais je suis officiellement installé depuis 2019. Je suis maraîcher sur une ferme donc avec 4 autres personnes. On a un hectare et demi de maraîchage, un petit troupeau de vaches allaitantes et un troupeau de brebis laitières. On transforme tout, que ce soit les produits laitiers ou la viande, ici et avec les outils du département. Je suis paysan et à côté de ça, je suis aussi administrateur de l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, donc ADEAR, des Hautes-Pyrénées, qui a été créé dans les années 2000 dans le département et qui a comme mission aujourd'hui et depuis toutes ces années de installer, transmettre, accompagner les transmissions et proposer des formations pour les agriculteurs et les agricultrices du territoire.
Donc son rôle, c'est d'aider les porteurs de projets à mûrir un petit peu leurs projets jusqu'à ce qu'ils soient viables et vivables, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. On les accompagne donc à différents niveaux de la. On propose différents types d'accompagnement. Donc, on a par exemple des stages collectifs dans un premier temps pour savoir où est-ce qu'en sont les personnes. Voilà. Et puis, si le projet est déjà un peu plus mûr, on propose deux types d'accompagnement. Le premier accompagnement qui s'appelle s'installer paysan. Donc là où on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis derrière, si on sent que c'est vraiment mûr, il y a un deuxième accompagnement qui s'appelle chiffrer son projet, et là on rentre dans l'aspect économique en fait du projet, voir la viabilité du projet. Voilà, c'est ça.
Alors effectivement, on peut dire que dans le contexte actuel en particulier, où le renouvellement des générations agricoles n'est pas si simple que ça, on le voit dans les éléments statistiques, et ça reste un enjeu majeur. Ces accompagnements sont bien sûr essentiels pour maintenir des fermes à la fois vivantes et puis des productions locales. Bon, vous traversez aujourd'hui une période financière difficile, peut-être nous dire deux mots sur ce que vous vivez en ce moment ?
Alors il y a plusieurs raisons. Donc premièrement, il y a une diminution des subventions publiques. En fait, on est un organisme qui est avec comme la Chambre d'agriculture. En fait, on est agréé pour faire ce qu'on fait. C'est une mission de service public, si on peut dire ainsi. Et du coup, les subventions diminuent. On fait aussi face à la diminution des aides à la formation, donc avec le fonds Vivea, voilà, qui diminue fortement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous impacte énormément. Il y a une diminution de la prise en charge, mais il y a surtout une diminution du nombre de formations. C'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis. Il faut toutes les formations ne passent plus aujourd'hui. On a déjà essuyé plusieurs refus, notamment l'année dernière, qui nous ont mis vraiment dans le rouge. On avait prévu 3 formations en fin d'année et elles ont été annulées à peu près du jour au lendemain, si on peut dire. Et ça nous a beaucoup coûté. Et là, on en a encore une aussi qui a été annulée en début d'année.
Alors ces aides Vivea, entre autres et en particulier, qui sont importantes effectivement dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc elles sont en forte diminution, pas que pour vous, pour tous les acteurs de l'installation, j'imagine.
En fait, c'est pas vraiment des aides Vivea. Ce qu'il faut savoir, le fonds de Vivea, c'est des cotisations que nous on paye en fait en tant qu'exploitant agricole. Et voilà, c'est ça. C'est de la formation en fait. C'est de la mutualisation pour avoir un fonds de formation pour les paysans, les paysannes, pour continuer de se former. En fait, au cours de leur carrière, c'est ça en fait. Là, les formations, elles touchent pas les porteurs et les porteuses de projets. Elles touchent les personnes, en fait, les personnes qui sont déjà installées ou, par exemple, comme en ce moment, à partir de demain, il y a une formation pour la transmission qui commence. Là, clairement, c'est des cédants et des futurs cédants et futures cédantes qui vont participer à cette formation et eux, ils vont utiliser leur fonds Vivea. Mais la transmission est un sujet que Vivea a gardé en priorité, donc sur celle-là on sera financé par Vivea. Voilà.
Alors vous m'expliquez, quand on s'est croisé au salon, que comme partout malheureusement on s'aperçoit qu'il y a quand même un nombre de personnes accompagnées inférieur en ce moment. Il y a une petite baisse de la motivation et des envies d'aller dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'agriculture paysanne, mais aussi dans le monde de l'agriculture en général.
Oui, c'est un constat en tout cas qu'on fait, que la Chambre d'agriculture aussi fait. C'est, est-ce que, là, y a, on, du coup, nous, on, en tant que structure d'accompagnement, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est qu'il y a moins de personnes? Est-ce qu'ils utilisent d'autres biais? Il y a aussi des structures privées qui sont en train de se monter, comme Fève, comme Eloa, qui en fait amènent une concurrence dans ce champ de l'accompagnement à l'installation. Donc aujourd'hui, on peut aussi sur Internet trouver des formations et en 3 semaines devenir maraîcher. Moi, je me permets de passer à la radio pour faire une petite alerte à ce niveau-là. En fait, c'est pas en 3 semaines qu'on apprendra à être maraîcher. Je comprends qu'il y a un sentiment d'urgence de la part des plus jeunes, mais si je peux donner un petit conseil, en fait, ne vous précipitez pas, parce que ça prend du temps, en fait, pour apprendre ce métier, pour comprendre vraiment. Même moi, au bout de 10 ans, en fait, j'ai vraiment l'impression de comprendre ce que je fais. Du coup, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, prenez du temps dans votre parcours à l'installation. Allez dans des structures comme la chambre d'agriculture, comme la DEAR, qui propose un vrai accompagnement.
Alors tous ces éléments décrits, bon, bien sûr, fragilisent votre modèle économique, mais ils ne remettent pas en cause l'utilité, on l'a vu, hein, de cet accompagnement, et ni la pertinence d'ailleurs dans les actions et dans l'agriculture qu'on développe sur ce territoire, donc ça c'est important. Et donc aujourd'hui, bon, suite à ces situations, vous agissez déjà, vous faites déjà des actions par rapport à tout ça.
Par exemple, ce que j'ai dit il y a quelques secondes, qu'on proposait une formation à la transmission pour les cédants et les cédantes. On accompagne toutes les personnes qui nous contactent pour que ce soit dans un premier stade, même avant l'émergence du projet, et puis après derrière sur l'émergence. On propose des formations. Il y aura bientôt aussi une formation sur la traction animale Asine, là, qui va se passer autour de Lourdes, à Ségus plus précisément. Donc oui, on est présent. On était présent au salon de l'agriculture aussi pour se visibiliser, être en contact avec le monde agricole et paysan. Malgré nos difficultés, on a en fait quand même une grande détermination pour que la DEAR continue d'exister.
Voilà. Alors, au point de cette interview, bon, pour nos auditeurs, simplement, je crois que vous avez déménagé, hein. Vous êtes à Tarbes maintenant, donc peut-être préciser le contact si des jeunes se sentaient investis, ou des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui voudraient changer de vie, changer de monde et s'informer. Où est-ce qu'on peut vous voir et comment on peut vous contacter?
Alors, vous pouvez donc nous voir à Tarbes, à la zone de la Garounère. On a nos bureaux là-bas, je crois que c'est le 9 rue de la Garounère, quelque chose comme ça.
Oui, chers auditeurs, je leur ai expliqué, je ne l'ai pas fait dans le cadre de cette interview. Je suis à la ferme de la Coume, donc je suis en plein cœur des Baronnies. Et donc, inévitablement, je suis dans la nature et on n'a pas les éléments sous le coude comme ça. Voilà. Parlons un peu des perspectives, du coup, Benjamin. Bon, malgré ces difficultés, quelles sont les perspectives aujourd'hui de la DEAR65?
Alors, les perspectives, elles sont assez claires. Donc, continue notre mission. Donc là, on va continuer de proposer encore cette année donc les dispositifs d'accompagnement dont j'ai parlé, s'installer paysan, et chiffrer son projet si des porteurs de projets se manifestent. On a donc cette formation sur la transmission qui va commencer demain. Et après, dans nos perspectives, on travaille sur un partenariat avec une fondation qui s'appelle Clamor Terrae, qui travaille sur la biodiversité et qui a envie d'intégrer dans son champ d'action en fait l'agriculture, et se rapprocher un peu de structures comme la nôtre pour du coup cette structure pourrait nous soutenir à terme. Donc ce sera pas en 2026, peut-être en 2027, sur notamment les actions de transmission. Voilà, donc là, ça c'est une des perspectives, et on va proposer aussi plus de formations cette année, donc là comme la formation de traction animale, Asine, et on a créé des commissions au sein de la DEAR avec des adhérents et des adhérentes, paysans la plupart du temps, donc une commission installation, une commission transmission, une commission formation. Donc au cours de l'année, il y aura d'autres propositions. Et après, dans les perspectives à plus court terme, donc du fait de notre situation un peu complexe, on a décidé de lancer une cagnotte de soutien, de dons en fait participatifs, quoi, pour nous aider à traverser cette phase qui est pour nous, je pense, vraiment une phase. On a besoin d'un soutien. Il sera ponctuel, je l'espère. Voilà.
Oui, en fait, moi, j'ai envie de reprendre un petit peu cet appel, ce soutien qu'on peut vous faire, hein, puisque l'idée, c'est quand même de vous aider à passer ce moment difficile dans le contexte. Et pour autant, l'utilité et puis le travail que vous menez est très important. Moi, j'entendais la présidente de la région parler de souveraineté alimentaire, mais pour qu'il y ait une souveraineté alimentaire, il faut aussi maintenir les paysans, hein, inévitablement. Et donc, pour ça, eh bien, il faut les accompagner, les former et les mettre, entre guillemets, dans un contexte viable et vivable pour eux, quoi, dans ces éléments. C'est ce que vous faites. Et puis également, pour maintenir le territoire là, dans les baronnies, hein, plus qu'ailleurs peut-être, il faut du monde, il faut des mains, il faut des têtes, il faut des gens qui aiment ce pays et qui contribuent totalement à le maintien de ce pays, donc c'est important. Et donc concrètement, comment on peut vous soutenir justement financièrement? Donc c'est un appel à soutien. Donc si nos auditeurs sont intéressés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dites-nous.
Alors on a lancé une cagnotte sur un site qui s'appelle Hello Asso, et il suffit du coup de alors là j'ai pas le lien à vous proposer directement, mais en fait il suffit juste de rechercher ADR des Hautes-Pyrénées Hello Asso et de le taper sur le clavier de l'ordinateur sur internet, et vous trouverez la campagne de dons. C'est assez facile, vous pouvez les dons commencent à partir de 10 € et jusqu'à plus, voilà. On est en train d'essayer de faire en sorte que, parce que pour l'instant la DR n'est pas reconnue d'intérêt général, donc on peut pas défiscaliser les dons, voilà, mais on est en train de travailler dessus pour que ce soit le cas.
D'accord. Alors Hello Asso, je précise pour les auditeurs, c'est HELLOASO, et quand vous êtes dans Hello Asso, sur la barre de recherche vous tapez tout simplement ADR des Hautes-Pyrénées et vous tomberez tout simplement sur la proposition qui vous est faite de participer, de contribuer à passer ce moment difficile. En quelques mots, peut-être pour terminer sur ce sujet, en termes de développement et d'installation de paysans qui s'installent, aujourd'hui, pour avoir une idée, c'est combien de paysans passent par l'ADR chaque année pour s'installer?
Ça dépend des années. Alors, on peut pas dire qu'il y a... on a une centaine de personnes chaque année qui passe parmi nous. Après, il n'y en a pas une centaine qui s'installe. On est plutôt entre 10 et 20, plutôt dans ces eaux-là. Et en fait, ça, on parle de 2024, mais 2025, on n'a pas encore les chiffres. Mais ça n'a pas du tout été à la hauteur de nos espérances. On a typiquement les deux formations qu'on fait, donc s'installer paysan et chiffrer son projet, ont été annulées par manque de... Donc on a fait plus d'accompagnement individuel que d'accompagnement collectif. Voilà. Donc,
voilà. Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est dans la réflexion que vous portez autour de l'installation, il y a sans doute tout un travail sur le collectif. S'installer seul, et en particulier dans ce territoire et en maraîchage, c'est peut-être difficile aujourd'hui. Même si ce n'est pas l'aspiration générale des candidats, mais travailler ensemble, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus simple en termes de contribution, temps de travail, disponibilité, présence dans la famille, etc. Enfin, vous êtes un exemple, mais...
Je pense que pour ça, je pourrais pas. Moi, je sais que c'est le modèle qui me convient. Je suis sur une ferme où on est plusieurs et ça a plein d'avantages. Ça amène aussi beaucoup de complexité. À la DART, on va pas privilégier les accompagnements individuels. On va privilégier les accompagnements collectifs pour qu'il y ait que les gens s'y se confrontent, stimulation, confrontation, qui compare en fait. Ah bah ouais, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Donc c'est parce que c'est vraiment important qu'il y ait du dialogue en fait entre nous et qu'on se sente pas seul dans un projet qui est quand même assez vaste, souvent même une toute petite, en fait on se fait peut-être une idée des toutes petites fermes, mais c'est quand même des sacrées entreprises, oui, dans lesquelles se lancent les personnes. De vivre son projet d'installation avec d'autres, c'est, je pense, une grande force pour la suite.
En tout cas, merci Benjamin. Moi j'incite nos auditeurs en tout cas à s'intéresser à cette question. Derrière chaque installation agricole réussie, on peut dire qu'il y a souvent un accompagnement collectif. Et si on perd cette capacité à accompagnement collectif, bah on perdra potentiellement des femmes et des hommes, hein, des agricultrices et des agriculteurs, mais on a besoin de ces femmes et ces hommes. D'autant plus qu'on veut avoir une certaine souveraineté alimentaire dans ce territoire. Merci infiniment Benjamin. J'espère que cet appel sera relayé en tout état de cause. Et puis, chers auditeurs, je mettrai sur le site Radio Présence Lourdes les références. En tout cas, merci et bonne journée.
Bonne journée, merci beaucoup.
Effectivement, c'est sur le site radioprésence.com que vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes ces émissions. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur en librairie, juste après Jean-Jacques Goldman.
Quelques braises échappées des cendres d'un amour si loin déjà. Vous en souvenez-vous? Nous étions fous de nous. Nos raisons renoncent, mais pas nos mémoires. Tendres adolescents, j'y pense et j'y repense. Tombe mon soir et je voudrais vous revoir. Nous vivions du temps de son air, arrogant comme sont les amants. Nous avions
Jean-Jacques Goldman, sur Présence, je voudrais vous revoir.
Présence à l'Albinc, 92.5.
Et nous, on retrouve Nicolas Dargegène pour son coup de cœur en librairie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit livre que des amis viennent de m'offrir. Il s'agit de « Pour une jeunesse sainte » de Sophie Fournier, paru aux éditions Salvator en 2023. L'auteur encadrait un groupe de jeunes scouts. Elle était cheftaine de compagnie de guides dans ce formidable mouvement qu'est le scoutisme européen. Et un jour, elle parle de la sainteté à ses guides. Une des jeunes filles présentes lui dit « Mais Sophie, c'est vraiment pas possible de devenir sainte, c'est bien trop difficile. » La remarque blesse et interroge Sophie. Elle a alors l'idée d'écrire cet ouvrage pour répondre aux objections de toutes les personnes qui pourraient penser que la sainteté est inaccessible, alors que nous sommes tous appelés à devenir saints. Et donc, avec ces quelques pages, Sophie Fournier veut nous faire découvrir ce formidable cadeau qu'est la sainteté. Elle l'écrit elle-même dans son introduction. « J'ai écrit ce livre pour répondre à cette guide, si dubitative devant sa capacité à être sainte. D'ailleurs, Dieu donne à tous cette grâce. Et à tous les autres qui ont parfois doucement souri lorsque je leur parlais d'aller au ciel, d'être saint. » À la base, cet ouvrage s'adresse à un public jeune, mais ne mentons pas, il peut être lu à tout âge. À tout moment, nous avons encore besoin de lire que la sainteté est un chemin accessible. La sainteté, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, caractérise en premier lieu la nature de Dieu et par extension l'état de vie de ceux qui, par leur exemple et leur union au Christ, sont des modèles pour les autres. La sainteté, c'est l'union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. C'est la charité vécue pleinement, c'est-à-dire l'amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain. Elle est un caractère essentiel de ceux qui veulent être des témoins de Dieu aujourd'hui. Cependant, dans l'imaginaire collectif, sainteté est synonyme de perfection. Seul l'être parfait peut être saint. Or, Sophie Fournier le rappelle, Dieu ne nous veut pas parfaits. Et il est utile de distinguer sainteté et perfection. Comme le disait Saint Jean 23, la perfection est liée à une réussite personnelle. L'accès à l'excellence ne peut être que le fruit d'un long travail de soi sur soi, mais aussi pour soi. La sainteté, nulle créature ne peut l'acquérir en comptant exclusivement sur ses propres forces. Elle se reçoit, ne résulte pas d'efforts surhumains. Le saint chrétien est un pauvre qui prend acte de ses limites, se dépouille et renonce lui-même pour tout recevoir de celui qui seul est saint. Le saint pape nous donne là une distinction entre sainteté et perfection facile à comprendre. La sainteté ne dépend pas de nous, il nous faut simplement l'accueillir, faire naître en nous la vie de Dieu. Comme l'écrit Sophie Fournier, nous sommes des pauvres, certes, mais des pauvres aimés et sauvés par Dieu. C'est là que se trouve notre force. Nous ne pouvons pas être saints sans Dieu. La grande différence est donc que la perfection est choisie, laborieuse, difficile à atteindre, tandis que la sainteté est donnée par Dieu, par la grâce. « Ma grâce te suffit », comme l'écrit saint Paul aux Corinthiens. Une grâce que nous devons accueillir et dont nous devons nous montrer dignes. D'ailleurs, Dieu connaît nos limites, nous en avons tous. Et c'est souvent par ces limites que Dieu passe pour s'approcher de nous et nous attirer à lui. Mais par contre, nous ne devons surtout pas tomber dans une sorte de tiédeur, de médiocrité. Comme l'a écrit le pape François dans son exhortation Gaudete et Exultate, « Le Seigneur veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. » Une erreur serait également le quiétisme, c'est-à-dire ne rien faire, puisque Dieu s'occupe de tout. Or, comme l'écrit Sophie Fournier, nous ne serons pas saints sans Dieu, mais Dieu ne nous rendra pas saints si nous ne faisons rien. Nous devons agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Pour nous encourager, l'auteur nous cite un écrit de Marie Noël. La grande poétesse auxerroise écrivait « Le saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est quelqu'un qui n'est rien. Mais par ce rien, Dieu passe, comme l'eau d'une source par le vide grand ouvert d'un conduit, pour aller donner aux âmes sa grâce à boire. » Le saint est un bon conducteur de Dieu. Marie-Noël nous l'indique, c'est en acceptant ma petitesse et ma faiblesse que Dieu va me transformer en force. Pas besoin d'être grand pour conduire Dieu vers les autres. Le fait d'être saint ne veut pas dire que l'on cherche à tout prix à être canonisé. Notre seul but est de nous approcher de Dieu le plus possible. Notre mise sur les autels des églises ne dépend pas de nous et ce n'est pas cela que nous devons rechercher. Dans un second temps, Sophie Fournier va nous donner des exemples de certains jeunes canonisés ou en chemin vers la canonisation et qui peuvent parler aux jeunes. La bienheureuse Chiara Luce Baddano, Saint-Raphaël Anaïs Baron, Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr, mais aussi le vénérable Faustino Pérez Manglano, notre voisine du Gers, Claire de Castelbajac, et bien sûr le futur saint Carlo Acutis. Tous ces exemples peuvent parler aux jeunes, peuvent leur donner une voie pour avancer vers la sainteté. Ces six exemples ont vécu leur vie chrétienne à fond. Car devenir saint, c'est vivre à fond, vivre chrétiennement à fond. Vivre à fond, mais surtout vivre tout de suite. Comme l'écrit Sophie Fournier, il y a une urgence à devenir saint. Pour Dieu, pour nous, pour le monde. Elle nous donne dans son dernier chapitre sept moyens pour devenir saint, sept pistes que nous pouvons suivre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition ou notre état de vie. Il faut tout d'abord désirer la sainteté, on ne peut pas devenir saint si on ne le veut pas. On peut penser que désirer la sainteté est une forme d'orgueil, mais il n'en est rien. Bien entendu, nous n'avons pas à nous vanter de chaque bonne action faite, là c'est de l'orgueil. Mais dire que nous voulons devenir saints, eh bien c'est tout à fait possible. Un autre point, c'est qu'il nous faut aimer Dieu et notre prochain. Cela paraît normal. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Ma vocation, c'est l'amour ». Mais aussi, il faut être joyeux. Comme le dit l'adage, un saint triste, un triste saint. La joie chrétienne n'est pas synonyme d'exubération, elle est souvent intérieure, mais elle illumine un visage, elle le transfigure. Il faut aussi prier. Comme dit saint Charles de Foucault, quand on aime, on voudrait sans cesse parler à l'être aimé. La prière n'est pas autre chose. Il faut servir. Servir, c'est aimer en acte, comme l'écrivait Michel Menu, une des figures importantes du scoutisme français. Et puis vivre les sacrements, notamment l'Eucharistie et la confession. Et enfin, se rassembler. Car un chrétien isolé est un chrétien en danger, comme le disait le pape François. Ces sept moyens ne sont pas une recette miracle. Ils sont l'expression d'une attitude fondamentale, chercher à faire la volonté de Dieu, s'abandonner à Dieu, écouter et mettre en application la parole de Dieu, aimer l'Église. Et cela, chacun avec nos moyens, nos talents, nous nous mettons au service de Dieu dans le but de devenir des saints. Mais le plus important, c'est de trouver sa propre voie, en partant de ces sept conseils ou en suivant des voies déjà ouvertes par d'autres saints. Le principal est d'agir à sa manière avec un seul but, s'approcher de Dieu. Sophie Fournier nous le conseille, restez les originaux que Dieu a fait de vous. Voilà un petit livre à lire pendant les vacances et à offrir à tous les jeunes adolescents, mais aussi aux adultes. L'auteur indique dans sa conclusion, ce livre est particulièrement destiné aux jeunes, mais je m'adresse à tout de même à vous, prêtres, parents, aumôniers, animateurs en pastoral, éducateurs. Faites-les devenir saints. Soyez saints pour qu'ils deviennent saints. Votre vie sera le meilleur témoignage, le meilleur exemple que vous pourrez leur donner. Montrez-leur la joie qu'il y a à aimer Dieu, à s'engager dans ce chemin de la foi, de la vie en Dieu. Montrez-leur à quel point Dieu n'est pas ringard ou un vieux pontif du passé, à quel point il est moderne, à quel point il agit aujourd'hui. Nous devons être saints aujourd'hui, pas demain ni la semaine prochaine. Non, c'est aujourd'hui que nous devons décider de devenir saints. Notre sainteté commence aujourd'hui. Choisissons maintenant de devenir saints. Pour Sophie Fournier, nous devons tous rayonner par une vie sainte. Nous devons éclairer le monde et pour cela être saints et scintillants. Des scintillants, S-A-I-N-T-I-2-L-A-N-T-S, un néologisme qu'elle a imaginé, mais qui résume comment nous devons éclairer le monde par notre sainteté. Ce livre à destination des jeunes est donc à mettre entre toutes les mains. À noter également que ce très bon livre a reçu en 2023 le prestigieux prix Saint-Jean-Paul II pour la famille, l'amour et la vie, section jeunesse. Pour une jeunesse sainte de Sophie Fournier, paru aux éditions Salvator en 2023, disponible à la librairie de la Grotte à Lourdes et dans toutes les librairies.
Eh bien, c'est noté. Merci à vous, Nicolas Dargegen, pour ce rendez-vous. Tous les 15 jours, la semaine prochaine, donc, ce sera le frère Martin de l'abbaye de Tournai que nous retrouverons.
Présence à Montrégeau, 94.1.
Présence.
Et il est 12h passé de 32 minutes à la pendule de Présence. Nous sommes en plein cœur de ce Présence midi. C'est dans quelques instants, nous allons retrouver Anne Deloye dans sa chronique solidaire. Elle nous parlera d'une session provinciale de la pastorale de la santé qui s'est déroulée il y a quelque temps de cela. Et puis, nous retrouverons Catherine Albrecht pour arpenter les beaux sentiers pyrénéens. Ce sera en compagnie de Christian Laborde. En attendant, eh bien, comme tous les jours, du lundi au vendredi, c'est l'heure des informations régionales. Des informations régionales qui nous sont présentées par l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Le ministre de l'Intérieur a validé le projet de relogement du commissariat de Foix. Il sera installé dans les locaux de l'ancienne Banque de France. Ce budget de 5 millions d'euros permettra de regrouper les policiers actuellement dispersés sur 3 sites inadaptés dans un bâtiment moderne et fonctionnel. Cette décision marque une avancée majeure pour la sécurité locale. La municipalité prévoit parallèlement de doubler les effectifs de la police municipale. À Cahors, le parking relais de la gare SNCF est de nouveau accessible dès aujourd'hui. Après plusieurs mois de fermeture, causée par un effondrement de la chaussée en octobre dernier, fragilisant une partie du site. Avec cette réouverture, les usagers de la gare retrouveront enfin une solution de stationnement. Dans le Lot-et-Garonne, Raymond Girardi conserve la présidence de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Il devance de 9 voix son adversaire Émeric Dupuis. Le jeune maire de Grésé-Cavagnan était le seul opposant à cette élection. Par ailleurs, Raymond Girardi annonce que ce sera son dernier mandat à ce poste de président. Airbnb a versé 1,5 million d'euros aux communes des Hautes-Pyrénées en 2025. Cette somme provient de la taxe de séjour payée par les touristes. Le département se classe au milieu du podium en région Occitanie. Il devance le Lot ou le Gers, mais reste derrière l'Hérault. L'argent sert à l'entretien des sites et à la promotion locale. Le tourisme rural progresse et profite à de plus en plus de villages. À Ax-les-Thermes, au site de compostage du pont du Génie, l'excès de pain jeté par les habitants bloque complètement le processus de décomposition. La levure contenue dans le pain crée un déséquilibre chimique, empêchant le compost de se former, risquant de rendre inutilisables des tonnes de déchets organiques. Ainsi, les habitants sont invités à ne plus jeter leur pain. Il est conseillé de le congeler ou de le transformer. À Toulouse, le musée des Augustins confirme son succès. Quelques mois après sa réouverture en décembre dernier, le musée des Beaux-Arts a dépassé les 100 000 entrées. Parmi les 1 000 personnes accueillies chaque jour, près d'une sur deux vient de Toulouse et les étudiants représentent à eux seuls 12% des entrées. De nouveaux temps forts sont déjà annoncés pour les prochaines saisons. De nouvelles œuvres feront leur apparition comme Notre-Dame de Grâce, l'ensemble des apôtres de Rieux et la réouverture des salles gothiques.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre, l'émission, comme vous le savez, qui donne la parole aux acteurs du pôle diaconie du diocèse de Tarbes-Lourdes. Aujourd'hui, nous recevons Sabine Barbecombe, responsable diocésaine de la pastorale de la santé. Bonjour Sabine.
Bonjour Anne.
Alors Sabine, nous allons revenir avec vous sur la session provinciale qui s'est tenue à Lourdes les 12 et 13 mars dernier. Alors c'est un thème assez fort puisque c'est le thème « Rejoindre et accompagner ceux qui souffrent ». Pourquoi avoir déjà organisé cette session régionale? À qui s'adressait-elle?
Alors cette session régionale a lieu tous les ans, avec un thème qui varie tous les ans. Et nous suivons les propositions ou les demandes des personnes qui participent aux sessions. Donc à la fin de chaque session, nous faisons un questionnaire, nous demandons aux participants ce qu'ils aimeraient voir aborder comme thème et nous en tenons compte pour le thème de l'année suivante.
Alors les participants, ce sont des personnes engagées dans les différents services de la pastorale de la santé sur l'ensemble de la province ?
C'est exactement ça. La session est préparée et proposée par les responsables diocésains de tous les diocèses de la province, les responsables diocésains de la pastorale de la santé. Et les personnes invitées et participantes sont des aumôniers, des bénévoles des équipes d'aumônerie, des bénévoles du service évangélique des malades, des personnes de tous les associations et mouvements, des personnes porteuses de handicap, des hospitaliers, enfin tous ceux qui veulent participer. Et même, on a aussi certains participants des diocèses alentours. On a en particulier quelqu'un qui vient d'Agen, on a des Lozériens aussi.
Voilà. Donc ils vont profiter aussi du contenu.
Exactement.
Des échanges. Alors ça représente à peu près combien de personnes?
On est aux alentours de un peu plus de 200-210 personnes. On est limité par la place au niveau de l'accueil Notre-Dame à la salle du transit. D'accord. C'est ça qui nous limite.
200 personnes.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des temps forts de cette session? Deux journées au sein du sanctuaire, c'est pas banal.
Alors, bien sûr, il y a les temps forts spirituels et religieux avec des messes. Puis, il y a toujours des interventions ou de professionnels et une partie plus ecclésiale, plus théologique avec un participant, là c'était le frère Touton, qui est donc un frère dominicain, pour le côté plus religieux et théologique. Et puis, depuis quelques années, nous favorisons aussi les témoignages. Il y a toujours une partie d'échange entre les participants, les 200 personnes, les 200-210 personnes qui, pour avoir un échange, une meilleure connaissance de soi, des autres aussi, parce que le temps fort, l'importance de cette session, c'est aussi que les gens des différents diocèses apprennent à se connaître, voir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des diocèses qui viennent peu nombreux, d'autres qui sont beaucoup représentés. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs et de pouvoir échanger avec des personnes d'autres diocèses.
Oui, parce qu'on imagine que ça aide vraiment chacun à vivre sa mission dans le quotidien.
Exactement.
D'avoir des lieux de parole.
Tout à fait. Et en plus, l'avantage que ce soit à Lourdes, même si c'est aussi pour une question de logistique, c'est que les personnes qui viennent des autres diocèses en profitent pour se ressourcer aussi en allant à Lourdes, en allant à la grotte.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient à la mémoire dans les interventions qui ont eu lieu ou dans les témoignages donnés, des paroles fortes que vous pourriez nous partager ?
Alors, il y a eu un témoignage d'une bénévole en aumônerie, veuve, et qui donc a témoigné de sa souffrance, à la fois de la souffrance de son mari qu'elle a accompagné quand il était malade, et de sa souffrance aussi personnelle en tant qu'aidant, en tant que conjointe, de le voir décliner, de le voir souffrir. Et voilà, ça c'est vraiment un témoignage qui a beaucoup percuté, hein. On a eu des retours qui nous ont dit que ça avait vraiment été fort. Après, l'intervention du frère Touton aussi a été beaucoup appréciée, donc avec une parole forte où on dit souvent les personnes qui souffrent, hein, qui sont malades, disent souvent « je confie mes souffrances à Dieu ». On l'entend souvent. Hein, et il nous a dit « non, Dieu il guérit les malades, donc Dieu il ne veut pas, Jésus il ne veut pas la maladie ». Et il ne faut pas confier quelque chose de douloureux, de difficile, de négatif à Dieu, mais au contraire, aller lui confier nous, ce que nous sommes nous, notre personne, hein. Voilà, c'est ça que l'on peut confier et pas nos souffrances à proprement parler.
Alors justement, donc le thème rejoindre et accompagner ceux qui souffrent. Aujourd'hui, comment la pastorale de la santé, comment la mission, votre mission Sabine, mais aussi celle de vos différents bénévoles, concrètement, comment vous arrivez à rejoindre une personne qui souffre aujourd'hui ? Est-ce que, je me dis, c'est certainement un grand rôle d'écoute, une présence ? Comment dans votre mission presque au quotidien, vous avez cette présence de Dieu auprès d'elle ?
Alors, nous ne sommes pas des soignants.
Oui.
Même si beaucoup de bénévoles ou même des aumôniers ont, avant de s'engager dans cette mission, une vie, ont été soignants dans une vie professionnelle antérieure. Mais nous sommes là, nous sommes dans l'être. Nous ne faisons pas. Nous sommes là, nous écoutons, nous sommes présents, nous sommes en silence, souvent, pour permettre à l'autre de parler ou pas. Nous respectons ce silence, nous tenons une main. Et c'est comme ça que nous sommes présents et que nous sommes attentifs à la souffrance de l'autre.
On sent à travers ce que vous dites un grand respect de la personne souffrante, une gratuité dans votre présence, de toute donnée. Alors, on va revenir un tout petit peu sur cette session en se disant, mais quelle suite vous allez donner à cette session ? Alors, on comprend bien qu'il y en aura une deuxième, enfin une autre l'année suivante, mais tout au cours de cette année, comment vous continuez à nourrir les différents bénévoles, les différentes personnes qui ont participé, pour justement toujours porter les fruits de cette session ?
Alors, ça dépend, chaque diocèse agit différemment. Bien sûr, il y aura une session l'année prochaine, puisqu'il y en a une tous les ans. Nous nous retrouvons, les responsables diocésains de la province, nous nous retrouvons en juin. Et c'est en juin que nous élaborerons, que nous réfléchirons au thème de l'année prochaine, qui sera peut-être complètement différent. Par contre, au niveau du diocèse, par rapport à la souffrance, il y a eu cette matinée à l'origine à la demande de Monseigneur Mika sur les lois fin de vie. Et pour accompagner vraiment les bénévoles et tous les acteurs de la pastorale de la santé, une récollection aura lieu après les vacances d'été. Alors, on pensait en septembre, mais vraisemblablement, comme on attend de savoir la date de venue du pape éventuellement à Lourdes, je vais attendre d'avoir cette date-là pour fixer une date. Voilà, pour permettre aux gens aussi, à toutes les personnes, à tous les intervenants de se ressourcer, parce que c'est ça aussi qui a été évoqué dans cette session à Lourdes, c'est que pour pouvoir bien accompagner les autres, il faut aussi prendre soin de soi, hein. Aimer l'autre comme soi-même, hein, Jésus le dit. Si on veut aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi, se ressourcer, se reposer de différentes façons, chacun de façon différente, parce qu'on est tous différents. Mais voilà, donc les récollections sont un temps de ressourcement important.
Alors, un petit mot pour avant de conclure, Sabine, puisque vous avez évoqué les lois sur la fin de vie. Vous avez organisé aussi, fin mars, à la Maison Saint-Paul, une journée avec des soignants, théologiens, juristes, autour de cette question essentielle de la fin de la vie. Qu'est-ce que vous voulez nous partager ?
Alors déjà, c'était à la demande de Monseigneur Mika, qui voulait que tous les chrétiens du diocèse puissent avoir des informations pour argumenter, pour nourrir leurs réflexions par rapport à ces lois. Et donc, avec Christophe Manceau, qui est le coordinateur de la diaconie, nous avons pensé à des soignants du service de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital, pour le côté soignant. Nous voulions aussi la présence d'un juriste. Et donc, nous avons fait intervenir Madame Elisabeth Gadoulet, qui est la présidente honoraire de la Chambre correctionnelle de Tarbes. Et en théologien, nous avons demandé au père Turc de nous donner sa vision, la vision de l'Église par rapport à ces lois.
Je crois, Sabine, qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça en profondeur. C'est un sujet tellement fort humainement et spirituellement. Merci beaucoup, Sabine, pour cet éclairage, pour votre témoignage également, tout en humanité, sur un sujet, comme je disais, qui nous concerne tous, de près ou de loin. Merci, Sabine, à la prochaine fois.
Merci à vous, Anne.
Sabine Barbacombe était au micro de Anne Deloye pour cette chronique solidaire que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le site de la radio, radioprésence.com. Bien sûr, on se retrouve dans quelques instants avec l'auteur du jour qui a écrit sur nos belles Pyrénées, Christian Laborde.
Me vira de ponta cabeça.
Présence à Mirande 104.2.
Du Pays basque aux rivages de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui, avec Christian Laborde. Écrivain, poète, chroniqueur, conteur et pamphlétaire, né au pied du col du Tourmalet, Christian Laborde est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont L'os de Dionysos, dernier roman à avoir subi la censure en 1987. Son ami Claude Nougaro l'intronise ainsi. « Christian Laborde est mon frère de race mentale. C'est un poète. » C'est-à-dire un homme qui parle une langue de couleur à délivrer les grands baisers de l'âme. Comme son mentor, il jongle avec les mots, les jeux de mots et les calembours, les sons et les rythmes dans ses chroniques littéraires, à la radio ou sur les scènes de théâtre. Ardent défenseur de la nature, Christian Laborde est un fou de vélo qu'il pratique sur les routes montueuses du piémont pyrénéen. Il a écrit plusieurs livres sur l'épopée du Tour de France et ses héros. Le dictionnaire amoureux du Tour de France, Duel sur un volcan, Fenêtre sur Tours, Le roi Miguel, Tour de France, Nostalgie, Prix Louis Nucera 2013. C'est son talent de mémorialiste qui s'exprime ici dans l'évocation des souvenirs de jeunesse. Lorsque son père l'emmenait sur les pentes des cols pyrénéens pour voir passer les coureurs du Tour de France. Maman nous réveillait bien avant l'aube pour aller voir passer les coureurs du Tour. Nous buvions du banania tandis que papa sortait de la grange La Renault, une ondine gris métallisée avec une sellerie rouge. Maman disposait dans le coffre la table de camping, les pliants, le cajot rempli de victuailles. Je me souviens du riz au lait, des pêches, de la limonade. Nous nous installions avec mon frère sur la banquette arrière. Mon père démarrait après avoir embrassé sur le porte-clés béni par monsieur le curé l'effigie de Saint-Christophe. Nous roulions vers Bagnères en empruntant la vieille route, puis vers l'école. À Sainte-Marie-de-Campan, mon père prenait la direction du Tourmalet, si les coureurs allaient de Luchon à Pau, celle d'Aspin et de Peyresourde si l'arrivée se jugeait à Luchon. Je me souviens des cascades du Tourmalet. Les eaux froides se brisaient sur les pierres brunes, projetant de l'écume jusque sur la route. J'aimais le col d'Aspin, ses arbres, son sommet herbeux, bleu et rond. Papa roulait doucement et se garait toujours à hauteur d'un dégagement. Il choisissait un endroit à l'ombre, une portion de route raide, sur laquelle Raymond Poulidor placerait un violent démarrage. Mon père a passé le plus clair de son temps à attendre que Raymond démarre. Je me souviens de sa joie lorsque Poupou, en 1974, avait attaqué sèchement dans le premier virage du plat d'Adé. Papa tirait le levier du frein à main, coupait le moteur, filait vers les arbres à la recherche d'une pierre qu'il calait contre l'une des roues de l'ondine. On ouvrait le coffre, on installait la table de camping, les pliants, et l'on cassait la croûte. Du saucisson, des anchois, le pain épais de Campan et de la limonade. Nous déjeunions à midi pétant. Le vermicelle qui avait passé plusieurs heures dans la thermos était gonflé, gorgé de bouillon et de goût. Le vermicelle du Tourmalet ou de Peyresourde nous réchauffait quand le col était noyé de brume, quand le froid nous enveloppait. Papa disait « Anquetil n'aime pas la pluie ». Il ajoutait « Les Espagnols non plus ». Il répétait « Ce temps, c'est bon pour Raymond », avant de verser dans son assiette, au fond de laquelle stagnait une infime flaque de bouillon, une bonne dose de rouge. Le col était plein, les motards sans anneaux passaient debout sur leurs motos. Les klaxons hurlaient, se chevauchaient, et des hommes coiffés de casquettes, assis à l'arrière de camions surmontés de haut-parleurs, nous lançaient des journaux. Les équipes, les dossards, les photos des champions. Tout à coup, ils arrivent. Tout à coup, ils sont là. C'était un « i » qui les annonçait. Une voyelle, comme une trompette rouge, pareille au rire des lèvres belles. C'était le « i » qui sortait de la bouche de mon père lorsqu'il récitait dans la cuisine la litanie des champions italiens. Tous ces héros étaient chez eux, dans ces montagnes où l'on s'égare dès que le brouillard descend. De nouveaux géants glabres, le buste ceint de leurs propres boyaux, les jambes lisses comme des sucres d'orge, se succédaient, coiffés de casquettes blanches, de soquettes blanches à leurs chevilles, les mains posées sur la guidoline, colorées de leurs montures, dont le soleil nappé de feu les étriers. J'étais heureux. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Christian Laborde. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht pour ces promenades hebdomadaires que vous nous proposez tous les vendredis juste avant 13h. C'est là-dessus d'ailleurs que nous nous quittons, chers auditeurs. Merci d'être fidèles à Radio Présence. Très très bon appétit si vous êtes à table. Une très très belle journée également que je vous souhaite sous le beau ciel de Midi-Pyrénées, puisque le soleil brille en tout cas sur Lourdes. Je vous quitte non sans vous avoir rappelé l'heure de la prière sur Présence, bien sûr, tous les jours à 15h30, l'heure de la méditation du chapelet en direct de la grotte de Massabielle au sein du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Très très belle journée à vous tous.
À Salis du Salat, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Léon XIV à Douala ce matin pour y célébrer la messe. Plusieurs dizaines.